Martin.
7h32, dans la prochaine demi-heure, on aura l'occasion de jaser avec Jacinthe Eve Harel, celle qui remplace Denis du lundi au jeudi, qui est avec nous pour le Pit Stop. Ben, le vendredi, on termine ça avec Jacinthe Eve qui sera là. On va parler de plein de sujets qui touchent l'actualité. On va jaser, bien entendu, de l'histoire de Donald Trump qu'on va aborder dans les prochaines secondes avec Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine, qui a diffusé sur ses réseaux sociaux une vidéo de singes dans laquelle on a remplacé la tête des singes par Barack Obama et Michelle Obama. C'est un peu dégueulasse là, comme façon de faire, on va se le dire. Mais bref, on va en jaser avec Jacinthe-Ève et plein d'autres sujets vers 7h55. 7h32, qu'est-ce qui se passe sur la route?
C'est beau en tabarouette ce matin, à part à une place, c'est Henri IV direction sud ou entre l'avenue industrielle. Non, c'est même pas vrai, c'est plus entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest là, que c'est au ralenti. À part ça, les ponts, capitale, c'est beau. C'est un bon vendredi, il fait beau, profitez-en.
Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine, est avec nous. Salut Luc!
Oui, bonjour!
Max m'a envoyé ça un matin, là, la vidéo de Donald Trump où on voit deux singes, puis il a décidé de remplacer la tête des singes par Barack et Michelle Obama. Je le disais avant la pause, depuis des années, on lutte contre le racisme. Puis t'as le gros tata, l'homme le plus puissant de la planète, qui décide de faire ce type de vidéo-là. T'sais, je pensais à tout le staff politique de Donald Trump qui est de couleur noire. Je parlais à l'équipe de protection de Donald Trump, là. L'équipe qui surveille Donald Trump pour qu'il ne se fasse pas tirer. Il y a des Noirs au travers de ça. Le staff politique de la Maison-Blanche, il y a des Noirs au travers de ça. Ça doit être épouvantable pour eux autres aujourd'hui.
Écoute, ça... travailler avec Donald Trump sur une base quotidienne, là, être lié d'aussi près au président, ça doit être, et c'est pas forcément positif, l'expérience d'une vie. Moi, je me souviens, tu vois, il y a cette vidéo-là, là, je pense que c'est... ça devrait être une condamnation unanime du message qu'on passe quand on fait quelque chose comme ça. Mais rappelez-vous, on a déjà oublié qu'il, avec l'intelligence artificielle, il y avait cette vidéo dans laquelle il était pilote de chasse et qu'il larguait littéralement de la merde sur les manifestants en bas, donc dans les rues. C'est, je sais pas, je veux bien là, qu'on soit passé sous Donald Trump à quelque chose où on va relativiser des déclarations. Des choses qui étaient avant condamnables sont presque devenues banales, quotidiennes, acceptables. Mais encore une fois, on le dit souvent, c'est un baril sans fond, Donald Trump. Tant aussi longtemps qu'il veut faire parler de lui, il va y aller de choses comme celle-là.
On sait, Luc, qu'il n'aime pas les Obama, mais d'où origine cette vidéo-là? Pourquoi il a décidé de mettre ça en ligne? Quelles seraient les raisons, selon toi?
Ah, moi, je pense qu'il y en a pas beaucoup de raisons qui sont profondes. D'abord, est-ce que le président américain est raciste? Ça, c'est une grande question. Et il nous a donné déjà un certain nombre d'indices depuis 2016. Ça fait depuis qu'il est descendu de l'escalier roulant de la Trump Tower pour présenter sa candidature. Ça fait depuis ce moment-là qu'on le relance sur sa perception, sa relation avec les minorités, que ce soit comme propriétaire d'entreprise, que ce soit comme candidat ou que ce soit comme président, ça revient constamment. Lui se défend de l'être, disant qu'il a des amis noirs. C'est l'excuse qu'on sert souvent quand on se fait accuser de racisme. Oui, mais j'en connais un noir. Donc, ensuite, moi, ce que je vois tout le temps avec Donald Trump, c'est comment je peux faire parler, comment je peux monopoliser l'attention, comment je peux choquer, comment je peux faire une diversion de nombreux sujets. Donald Trump est au cœur d'une série d'histoires parce qu'il n'y a pas que le dossier Epstein. Mais ces chiffres sont particulièrement mauvais ces jours-ci. Je vois pas en quoi ça va l'aider, parce qu'une des choses qui ressort des sondages, c'est qu'il y a, appelons ça, il pourrait y avoir toutes sortes d'indicateurs, mais appelons ça une fatigue Trump. Il y a de plus en plus de gens qui le trouvent extrême dans tout, et combien de gens se disent, mais on est tanné. Chaque fois qu'on ouvre la télé, chaque fois qu'on est sur une plateforme, il y a quelque chose que Donald Trump a fait. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une campagne il y a plusieurs années quand Nicolas Sarkozy était président en France, où on se disait, à quand une journée sans Sarkozy? Même moi qui vis de ça, du commentaire politique sur l'actualité politique américaine, je me souhaite éventuellement une journée sans Donald Trump. Une journée où on peut revenir sur des enjeux qui sont majeurs pour tout le monde et qui ne passe pas forcément que par le président américain.
Donc, la vidéo, on l'a décrite un peu, là. Ces deux singes qui sont là, on a remplacé, je répète, c'est une vidéo qui bouge, là. Donc, on a remplacé les têtes de ces singes-là par Barack Obama et son épouse Michelle. Et on présente des supposées preuves de malversation lors du scrutin que Donald Trump affirme avoir remporté. Et il dit qu'il a été spolié par Joe Biden à ce moment-là. Et on dit que la vidéo reprend des allégations qui n'ont jamais été prouvées, selon lesquelles la société de dépouillement Dominion Voting Systems aurait contribué à voler le résultat du scrutin à Donald Trump dans un certain nombre d'États-clés. Est-ce qu'il y a en tête là-dessus?
Il y a même pire que ça. Rappelez-vous que Fox News, il y a énormément de gens. Le réseau le plus écouté aux États-Unis, c'est Fox News. Et on était près d'une condamnation de 900 milliards de dollars pour dédommager cette compagnie-là, envers qui on a propagé des allégations qui n'ont jamais été prouvées. Donald Trump, si vous pensez que tout ce qu'on a vécu dans les 10 dernières années, ça brassait sous Donald Trump, il n'y a rien qui nous préparait à ce qu'est et à ce que sera 2026. Donc, on a eu le 6 janvier 2021. Moi, j'ai aucune gêne à dire, c'est une tentative de coup d'État, ce qu'on a encouragé cette journée-là. Maintenant, en raison d'une décision de la Cour suprême et de pratique du département de la justice, celle de ne pas poursuivre un président dans l'exercice de ses fonctions, Donald Trump ne va jamais passer devant les tribunaux, ne sera jamais formellement accusé de rien dans ce dossier-là, mais c'était déjà une tentative de coup d'État. Et tu faisais allusion à des malversations ou à des pratiques douteuses. Par exemple, en Géorgie, le cycle électoral de 2026, Donald Trump tente déjà par tous les moyens de l'entraver. Rappelez-vous cette semaine, là, on est vendredi, rappelez-vous que cette semaine, il a proposé de fédéraliser le vote aux États-Unis, mais pas partout, à une quinzaine d'endroits. Ça ne tient pas la route au plan constitutionnel parce qu'aux États-Unis, contrairement chez nous, quand il y a une élection canadienne chez nous, tout le monde sait comment ça va se dérouler à la grandeur du pays. On vote tous de la même manière. Aux États-Unis, ce sont chacun des États qui sont responsables essentiellement des règles dans leur État. Donc, ça prendrait quelque chose de très, très, très gros, un amendement à la Constitution, puis rompre avec le 10e amendement qui offre des garanties aux États américains. Donc, au plan constitutionnel, ça ne tient pas la route. Mais Donald Trump n'a même pas besoin d'aller jusque-là. Il est déjà en mesure d'influencer le cours de l'élection 2026 et il fait ça sous nos yeux. On a littéralement, là, depuis qu'il est de retour au pouvoir, un cours 101 de comment... Vous me pardonnerez le terme en anglais qui est un tantinet vulgaire, mais comment on peut fucker une élection? Donc, c'est exactement ce qu'on voit étape par étape. On appliquerait un guide, ça ne serait pas pire que ça.
Incroyable. En fin de semaine, c'est le plus gros show de football de la planète. Va juste être hallucinant, mais ça peut être une poudrière aussi. À la mi-temps, ben, y a quelqu'un qui n'aime pas Donald Trump, qui est un hispanophone. Y a énormément de gens qui vont être hispanophones à l'intérieur de ce stade-là pour regarder le Super Bowl. Le ICE a dit... Ça se peut qu'on soit pas là. Les services municipaux dans cette ville-là ont dit « Nous, on a ordre de ne pas collaborer avec le ICE. » Donc, les services de police municipaux ont dit « On a ordre de ne pas collaborer avec le ICE. » Donald Trump a dit qu'il serait pas là. Politiquement, tu t'attends à quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a Green Day qui n'ont pas Donald Trump dans leur cœur non plus, qui va faire le début, l'avant-match, en fait. Tu t'attends à quoi?
D'abord, ce que je regrette, c'est cette division-là qu'il y a dans la population et qu'on encourage. Les déclarations du président, puis pendant un certain temps, on a laissé planer des doutes sur la présence du ICE pour le Super Bowl. Ça fait très longtemps que Donald Trump contribue à ça. Il va encourager et se présenter quand un sport est supporté surtout par des Blancs. Et il va émettre de très sérieuses réserves ou encore tenter d'entraîner une certaine confusion quand le sport est dominé par des Noirs. Donc, quand on regarde le football n'est pas reconnu comme étant particulièrement progressiste là, dans ses façons de faire, mais oui, les dirigeants du football américain ont décidé d'appuyer un peu plus les minorités au fil du temps. On l'a vu avec des spectacles à mi-temps, par exemple, où on a vu des chanteurs de hip-hop ou des rappeurs. Donc, on a dit que c'est une partie de la culture noire, puis on va même placer ça au centre des festivités avec le spectacle de la mi-temps. faut savoir que la majorité des partisans au football américain sont noirs. On avait appuyé, je sais pas si tu te souviens, il a été mis sur la touche, mais après, on l'a un peu, on a tenté de le réintégrer. Colin Kaepernick, par exemple, là, ça fait déjà une éternité, mm-hmm. mais qui refusait finalement l'hymne national américain de s'incliner devant l'hymne. Donc, on a fait quelque chose qui normalement était rassembleur. C'est la grande fête sportive de l'année, c'est le Super Bowl. On en fait maintenant un enjeu politique. Et les dirigeants de la NFL ont refusé de céder aux pressions parce qu'on voulait même pendant un temps qu'on retire Bad Bunny de là. Puis Bad Bunny était très, très critique. Il ne fait plus de show aux États-Unis. Et il dit « Je le fais pour protéger les gens qui viennent à Système et Spectacle parce que Ice pourrait être là puis leur provoquer ou leur poser des problèmes. »
Mais c'est une poudrière. Donc, mais c'est oui. une poudrière. Si oui. le Ice se présente là, là, ça va exploser à la sortie. Tu vas avoir Green Day qui vont probablement envoyer des messages qui vont à l'encontre de ce que mentionne le président, qui va à l'encontre du Ice. Puis t'as Bad Bunny qui va être là, qui a dit dernièrement que le Ice, ben, fallait qu'il sorte. Puis probablement qu'il va avoir son message aussi contre Donald Trump. Donc des gens crinqués qui sortent du stade puis qui rencontrent des agents du Ice,
ouais.
ça peut mal virer.
Ça peut mal virer, puis tu vois, on parle du président, mais en maintenant intacte la programmation, la NFL dit, ben, finalement, on va pas céder devant Donald Trump, on va pas céder comme tant d'autres le font dans les universités ou dans les médias, mais en même temps, ça crée ce climat qui est explosif quand on va se retrouver dans la rue après le match. C'est pas, ou avant le match, pour ceux qui vont y aller et qui seraient sous surveillance. Oui, effectivement, c'est une poudrière. Il y a une charge politique qui est énorme. Et bien, en parallèle, en passant, on organise quelque chose. Pour ceux qui sont pas d'accord avec Bad Bunny, mais vous avez Kid Rock qui va être de l'autre côté pour une version... Pas sûr que considérant la popularité de Kid Rock, de Bad Bunny sur la planète, Kid Rock puisse faire un contrepoids, là, mais on n'a même plus un spectacle de la mi-temps. C'est pas la première fois qu'on dit on offre une contrepartie au spectacle de la mi-temps.
Ouais, ça se peut que je regarde le spectacle de Kid Rock aussi un peu plus tard, là, mais c'est clair que je vais regarder la mi-temps pour ben découvrir oui. le phénomène Bad Bunny. J'écoute pas sa musique. Même mes gars, je leur ai parlé de ça hier, puis ils savent qui est Bad Bunny, mais ils écoutent pas sa musique. Mais c'est l'artiste qui vire le plus à travers la planète mm-hmm. présentement. Là.
Voilà.
Luc, on avait un petit débat en ondes tout à l'heure à savoir est-ce que les oui. artistes, puis même les ligues sportives comme la NFL, devraient prendre position dans le débat politique comme ils le font lorsqu'ils ont des plateformes comme le Super Bowl ou les Grammys?
Il faudrait voir au cas par cas. Tu vois, comme les Grammys, moi, ça fait des années que les artistes ont perdu l'impact qu'ils avaient avant. Donc, on a déjà agi ou réagi aux messages des artistes. Écoute, dans la dernière campagne électorale, on avait l'autre grande vedette internationale qui est Taylor Swift. On avait Beyoncé avec elle. Ces gens-là se sont présentés avec Kamala Harris. Si les vedettes avaient un poids, comment se fait-il que Kamala Harris ait perdu 4 ou 5 millions de votes par rapport à Joe Biden, qui n'est pas super tendance, sexy ou in, mais il ne l'était pas à l'époque. Donc, je pense maintenant que les artistes, au contraire, on dit ils sont déconnectés, à tort ou à raison, parce que c'est très, très variable. Il y a des artistes qui connaissent très, très bien la politique. Il y en a d'autres qui font ça pour souvent avoir l'air plus cool ou penser être du côté ou du bon côté de l'histoire. Je pense qu'on devrait y penser deux fois. Moi, si j'étais un politicien, je suis pas certain aux États-Unis pour la campagne de les élections de mi-mandat ou la campagne 2028, je suis pas certain que je vais me coller sur les artistes. Donc, on a commencé il y a des années, vous vous rappelez peut-être de Ricky Gervais qui avait fait ça de multiples oui. occasions, disant aux artistes, fermez-vous là. Il le faisait un peu à la blague, mais il y avait un fond de critique aussi sérieux en disant, fermez-vous là, vous êtes déconnecté de la réalité, vous savez pas ce qu'est la vraie vie, allez pas parler aux gens de leurs problèmes, vous avez aucune crédibilité. C'est un peu l'image qui est restée de ça, et il y a une fatigue de ces nombreuses vedettes qui souvent, de façon larmoyante, émotive, parfois ce sont des comédiens, donc viennent appuyer un artiste. Mais pour ma part, j'ai jamais attendu qu'un artiste vienne me dire quoi penser ou quoi faire, mais il y a comme un ressac maintenant face à ces prises de position.
Mais Luc, faut faire attention parce qu'on fait pas on fait pas partie de la même génération que la génération d'Internet qui nous suit, là.
tout à fait, mais je regarde...
Dis-toi que s'il y a des influenceurs, c'est parce qu'il y a une multitude d'influencés, là.
Oh oui, ah, tout à fait. Tout à fait. Mais je pense que comme influenceur, les grandes vedettes ne parlent maintenant qu'à des chambres d'écho. C'est-à-dire que moi, ce que je vois dans les dernières, ça aussi, ça vient avec les réseaux sociaux. Là, le phénomène est encouragé par les réseaux sociaux. On parle à une petite gang puis on la rentabilise quand on est un influenceur ou une influenceuse. Au plan politique, on peut pas être cloisonné comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que les politiciens multiplient les plateformes maintenant. Que Donald Trump aille voir Joe Rogan, c'est parce que Joe Rogan contourne tout ce qui était média avant, puis qu'il y a un large auditoire. Mais Joe Rogan tout seul, c'est pas suffisant. Donc, c'est là où je disais, oui, les influenceurs, influenceuses, les podcasts, etc., ça a une influence. Mais faut voir qui on essaie de viser avec ça. Et si je veux, comme démocrate, gagner, entre guillemets, monsieur et madame tout le monde, là, qui se lèvent chaque jour pour aller travailler, est-ce que j'ai besoin de Taylor Swift? Je suis pas certain. Elle rejoint pas vraiment les gens dans leur vécu au quotidien. Donc, faut que je passe par une autre route. Puis les démocrates semblent d'ailleurs avoir compris que être sur le terrain et ne pas faire la morale aux gens, leur parler de leur quotidien, de ce qu'il y a dans l'assiette, des frais de scolarité, de l'hébergement, des vrais problèmes finalement auxquels on est confronté là quand on a le nez collé sur la vitrine au quotidien. Je pense que les démocrates maintenant se trouvent des joueurs pour aller rejoindre les gens dans leur quotidien et moins pour leur parler entre guillemets d'une chaire ou d'une autre plateforme.
Luc, en terminant, est-ce qu'on peut espérer retrouver un semblant de vie normale au Minnesota d'ici quelques semaines là, avec le retrait cette semaine de 700 agents là, de la police ICE?
Réponse en deux volets. Au Minnesota, oui. Ailleurs, pas certain. Donc, moi, je pense que c'est un repli stratégique de la part de l'administration Trump parce qu'on ne change rien vraiment aux pratiques du ICE. Mm-hmm. Mais ce qu'on montre, c'est qu'il y a une désescalade. On a constaté dans les sondages et au sein des élus républicains qu'il y avait un mécontentement par rapport à la façon dont on a géré ICE au Minnesota. Mais je pense que c'est un repli stratégique et c'est un avertissement. Attendez-vous à revoir ICE. Puis une des choses qu'on craint, c'est pas ICE uniquement au Super Bowl, c'est ICE près des bureaux de scrutin en novembre 2026. Ouais. Donc, il y a de non. Quand Donald Trump parle de modifier les règles dans juste une quinzaine de places, il n'a pas parlé d'État ou de circonscription, mais on devine qu'il ne va pas aller dans des circonscriptions ou des républicains blancs des États du Sud ou des États du Centre. On pourrait faire un pari, c'est pas là que ICE va débarquer le jour de l'élection.
Merci, Luc Laliberté. Je te souhaite de passer un super de beau week-end puis un beau Super Bowl. Puis tiens-toi loin de la politique américaine ces temps-ci. C'est un peu négatif.
Bon match, tout le monde. En plus, j'ai même pas de favori cette année. Je ne regarde que pour le... Ben écoute, j'ai détesté les Pats. En fait, amicalement détesté les Pats parce qu'ils battaient mes Steelers pendant de nombreuses années. Mais j'adore l'histoire de la reconstruction des Pats. De l'autre côté, ben qui peut être contre le quart arrière des Seahawks contre une histoire comme celle-là? Puis c'est deux équipes qu'on a moins vues dernièrement. Donc, il y a un volet changement. Il y a des belles histoires de chaque côté. On se concentre sur le football, on s'amuse.
Salut, Luc.
Bye.
Bye-bye. Luc Laliberté, chroniqueur politique américaine. 7h49, dans les prochaines minutes, on sera en mesure de se connecter avec Jacinthe Varel, qui est chroniqueuse politique. On va parler de plein de sujets avec elle, bien entendu. Puis on va aller voir ce qui se passe côté circulation, Max.
Oui, c'est assez léger sur la route, mais il y a un texto qui vient d'entrer. Là, accident Robert Bourassa Sud au coin de Beaurevoir. C'est un vrai nom, ça? C'est la première fois que je vois ça, François. Beaurevoir.
Ça peut être Beaurevoir.
Beaurevoir. Rue Beaurevoir. Ah, c'est ça, c'est Beaurevoir. Il y avait un R de trop. Fait que, Robert Bourassa-Sud au coin de Beaurevoir. Mais ça semble pas causer énormément de problèmes pour l'instant.
Sinon, sur les ponts, ça a du sens?
C'est vert.
Merci beaucoup. Je te sens passionné aujourd'hui de la circulation.
Ben, c'est parce que quand c'est beau puis c'est le fun, on est de bonne humeur.
D'habitude, t'es découragé. Puis là, je me dis tout le temps dans ma tête, sans te le dire, ramenez-moi Gaby Drolette. Il y avait juste lui qui faisait la circulation.
On est par choc à par choc. Par choc à par choc. Code rouge.
7,50. On vient. Le rock.